Réponse à vos réactions, questions et suggestions avec l'invité d'Okapi Service.
Okapi. Et voilà, on le disait en titre de cette deuxième partie de l'émission Okapi Service. On va parler des comment lutter contre le monnayage des points milieux universitaires. Le professeur Augustin Mouindambali, directeur de l'Observatoire du Code éthique professionnel, vient de nous rejoindre dans ce studio. Professeur Augustin Mouindambali, bonjour.
Bonjour Tati, bonjour les auditeurs. C'est Marcel.
Voilà, pour ça merci d'être là avec nous pour parler de cette pratique qui est souvent décriée, mais malheureusement qui est vraiment d'actualité en milieu universitaire. Et le monnayage de points constitue une vraie gangrène dans les secteurs de l'enseignement supérieur universitaire. Certains assistants ou chefs de travaux exigent des étudiants de l'argent pour être bien cotés sur les matières auxquelles ont échoué. Notre constat amer, la réussite dans certaines matières passe absolument par l'achat du syllabus. Avec le professeur, on va donc développer ces sujets, surtout comment lutter contre cette pratique. Et nous rappelons le numéro des contacts pour des personnes intéressées qui veulent bien intervenir. Vous êtes étudiant, vous nous suivez en ce moment, vous avez un témoignage par rapport à cette pratique. En tout cas, n'hésitez pas à appeler au 081-890-6394 ou bien envoyez-nous un SMS au 081-711-5001. Ah voilà, professeur, monnayage de points en milieu universitaire, qu'est-ce qui peut être à la base de cette pratique qui est décriée mais qui est toujours d'actualité?
Bon, c'est une pratique qui est là, décriée il est vrai, mais qui est obligée de vivre avec les étudiants qui ne sont pas vertis. Ce qui est dû à ces monnayages de points, c'est d'abord, disons, l'absence d'assiduité au cours. Les étudiants qui s'appliquent réellement n'ont pas besoin d'aller monnayer les points, puisque leur intelligence fait la preuve, fait la différence, et suite à cela, ils ne peuvent pas être du tout dépendants par rapport aux professeurs. Ce sont surtout les étudiants faibles, les étudiants qui sèchent les cours, qui recourent effectivement à ces derniers remparts qui consistent à rattraper le temps perdu. Alors, comme stratégie, il est vrai, il y en a à trois niveaux. D'abord, au niveau des étudiants eux-mêmes, pour ceux-là qui sont victimes de cette pratique, sans leur consentement, ils n'ont qu'à dénoncer cela auprès des autorités. Et ici, je vois le deuxième pôle, c'est le pôle de l'autorité qui doit être humilié. L'autorité universitaire est appelée à prendre des sanctions qui s'imposent, à appliquer le règlement, le strict règlement, envers les professeurs qui se livrent à ce genre de pratiques et envers aussi les étudiants. Et en troisième pôle, il y a effectivement les professeurs eux-mêmes. Les professeurs doivent se rendre compte que quand ils ont étudié, ils n'ont pas du tout fait l'objet des pratiques de corruption, ils n'ont pas rançonné les enseignants pour réussir, et je vois très mal qu'ils se mettent à appliquer une pratique qui dévalorise la profession de l'enseignant, qui humilie l'enseignant même, je dirais. Il y a des gens qui croient pouvoir y tirer des profits, mais on est en train de détruire la carrière de l'enseignant. Et l'enseignant, c'était un homme respectueux et respecté. Mais aujourd'hui, suite à ces pratiques, un étudiant peut même vous braver, vous dire tout simplement, vous dire, écoutez, je n'ai pas de compte à vous rendre parce que je sais que c'est l'argent qui va faire la différence à la fin de l'année. Donc, vous voyez qu'à trois niveaux, il faut envisager des actions. Au niveau des étudiants, la dénonciation de la part des victimes, comme aussi de la part des témoins. Au niveau de l'autorité, il faut appliquer les sanctions, sanctionner ces étudiants, sanctionner également les professeurs. Au niveau des professeurs, quand vous êtes soumis à des pressions des étudiants, à des sollicitations des étudiants, la moindre chose à faire est tout simplement de porter l'histoire au niveau de l'autorité et même au niveau de la délibération, ainsi à ce que l'étudiant ne puisse pas être délibéré.
Vous avez dit, ici, faut, les stratégies, c'est à trois niveaux. Il faut commencer d'abord par dénoncer, c'est-à-dire les étudiants, entre eux, doivent dénoncer cette pratique. L'autorité universitaire doit donner, en tout cas, appliquer des sanctions par rapport aux professeurs qui sont impliqués dans ces genres de pratiques de monnayage de points. Mais également, vous avez également parlé des professeurs eux-mêmes qui doivent se remettre en cause. Parce que ça, c'est quand même gênant lorsqu'on entend dire pour un professeur, écoutez, son cours, vous n'avez pas besoin d'assister. Donc, vous pouvez sécher quand vous voulez. contrôler. Il suffit, après l'examen, aller le voir avec un peu d'argent, ça va marcher. Ça, c'est pas une bonne réputation, ça. Donc, les professeurs doivent vraiment se remettre en cause. Mais parlons également de ce qui est de l'achat du syllabus, parce que à l'époque, je me rappelle, le syllabus était juste pour permettre à l'étudiant de bien suivre les cours lorsque le professeur enseigne. On oublie, c'était pas lié au fait. C'est-à-dire qu'il y a de ceux qui étudiaient même sans avoir des syllabus, c'est-à-dire ils consultaient les syllabus des autres, mais maintenant il n'en est pas le cas. Il faut l'achat d'un syllabus s'impose pour que vous restiez à cette matière. Qu'est-ce que vous direz par rapport aussi également à
effectivement, le problème des syllabus au niveau de toutes les universités du monde existe. Mais c'est une question qui est réglementée.
Oui.
On ne peut pas acheter le syllabus auprès du professeur. Ça, c'est une interdiction formelle dans les universités bien structurées. Il y a ce qu'on appelle la maison d'édition des cours. C'est cette maison d'édition des cours qui réceptionne les syllabus destinés à être donnés aux étudiants. Chaque professeur dépose son lot de syllabus là-bas, moyennant effectivement un contrôle éventuel. Vous n'allez pas ramasser n'importe quel copier-coller que vous allez introduire là-bas pour pouvoir tromper les étudiants. Donc vous voyez, au niveau des maisons d'édition des cours, ou bien services d'édition des cours des universités, il y a déjà un premier tri. Et ce tri se situe au niveau du contenu des cours. Est-ce que le syllabus qui sera mis en circulation est conforme au contenu du cours? Ça, c'est le premier niveau de contrôle. Mais là, les étudiants peuvent se présenter. Selon qu'il n'a pas été apte à prendre note, à ne pas saisir tout ce que le professeur a dit,
tout à fait,
il peut recourir effectivement ses syllabus pour compléter une partie des minimums de ses connaissances. Mais l'achat des syllabus ne doit jamais être rendu obligatoire. Et c'est là où les pratiques de corruption commencent à intervenir. N'achète les syllabus, l'étudiant qui veut parfaire ses connaissances à la matière ou qu'il y ait un certain nombre de vides au moment où le professeur enseignait oralement ou d'une manière ex-cathédrale pendant les séances des cours. Voilà les conditions qui poussent les étudiants à se documenter, à enrichir encore le minimum de connaissances, pas seulement acheter les syllabus, mais aller consulter les livres dans les bibliothèques. Mais ici chez nous, ce système est devenu un fonds de commerce pour les enseignants. Un fonds de commerce, c'est comment? Ils ont institué même le mécanisme qu'on appelle les droits d'auteur. À part l'achat des syllabus, vous payez d'abord un $5 des droits d'auteur. Et une fois que vous avez récupéré le syllabus, bon, on vous dit, vous ne passez pas l'examen si vous n'en avez pas. C'est que vous conditionnez déjà la réussite à l'achat des syllabus. Donc, le professeur cherche à se faire de l'argent. Et il y a des gens qui n'ont pas hésité parmi ces professeurs. J'ai dit professeur entre guillemets, les enseignants,
oui.
Puisqu'il y a les scientifiques assistants, il y a les chefs des travaux, il y a aussi les académiciens, les professeurs qui sont là-dedans. Il ne faut pas incriminer les gens gratuitement, il faut faire la part des choses. Alors c'est là qu'on commence à exiger, parce qu'à telle session, je dois me construire, faire la fondation de ma maison. Et là nous glissons petit à petit vers ce qu'on appelle le vide des cotes. C'est-à-dire, pour les étudiants qui n'ont pas acheté les syllabus, même s'ils ont présenté les examens, le professeur s'est rattrapé comment? Il disait que la cote n'apparaît pas sur la fiche des cotations, donc l'étudiant est supposé n'avoir pas présenté son examen. Conséquence, c'est pour pousser l'étudiant à la stratégie qu'on appelle la stratégie des suivis. Étant donné que vous n'avez pas de points, vous êtes obligé de courir derrière le professeur, moyennant toutes les conditions que vous connaissez. Si ce sont des filles, c'est les points sexuellement transmissibles. Si ce sont des garçons, c'est le phénomène des couloirs. Ça dit quelqu'un qui récolte les noms des collègues pour que ses collègues puissent réussir à ses cours. Et c'est les moineaux qui présentent la liste auprès de professeurs, moyennant les billets des banques.
On va poursuivre avec vous, professeur Auguste Mouindambali. Vous êtes directeur de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle. Je rappelle que vous êtes notre invité pour parler de comment lutter contre le monnayage de points milieu universitaire. Nous rappelons le numéro des contacts pour des personnes qui viennent de nous joindre et qui veulent bien intervenir. Appelez-nous 081 890 63 94.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partez à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un zeste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte, le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Nous avons déjà en ligne la première vague d'auditeurs. Jean-Claude Kazadi nous appelait de Lubumbashi dans Lukatanga, Ismaël, mon poète également dans la même ville et la même province. Benjamin Bizour est à Bukavu dans le sud Kivu. Jean-Claude Kazadi, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Voilà, on vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, justement, je vous remercie d'abord pour avoir soulevé cette question vraiment de grande envergure, puisque je me demandais si seulement les autorités académiques étaient au courant de tout ce qui s'est passé dans les universités. Hélas, à entendre bien le professeur qui est l'invité du jour, je vois bien, je me rends compte que toutes les autorités sont bel et bien au courant de tout ce qui se passe dans les universités. Avant peut-être de me poser la question, je voudrais juste vous dire que, vous savez, pour moi, le respect d'une autorité dépend d'abord de son intégrité. Il y a aujourd'hui, bien sûr, des professeurs qui sont intègres, nous les connaissons, mais malheureusement, la majorité vraiment des professeurs, entre guillemets, comme il l'a dit, puisque nous avons surtout les assistants et les chefs des travaux, qui vraiment ont sapé sérieusement l'image de l'université. Mais puisque tous ces gens-là, toutes les autorités savent déjà, puisque ça se passe au vu et au su de tout le monde, quels sont les mécanismes? Puisqu'il essaye de parler, il a donné les quoi, mais qu'est-ce qui est difficile d'appliquer cela pour vraiment mettre fin à cette histoire vraiment qui rend l'université vraiment méconnaissable? Parce que nous sommes passés par là. Et moi, je n'ai pas accepté jusqu'à ce que j'ai quitté l'université, je n'ai pas accepté même pas un seul jour de quoi. Aujourd'hui, ils organisent le comité promotionnel, les chefs de promotion et tout consort, c'est bien, et le moineau, comme le professeur l'a dit, ils vont récolter l'argent à gauche à droite. Il y a le phénomène qui l'abîme aussi. Ça devient maintenant intenable. Moi, je viens d'avoir deux enfants à l'université de Lubumbashi. Mais ça peut rendre quelqu'un fou. Le problème qu'il a dit, c'est là, vous ne pouvez pas faire autrement. Ma fille, qui a, parce que je m'excuse, qui l'année passée, l'année qui vient de s'écouler,
oui,
avait deux échecs seulement. Deux échecs, des petits cours, puisqu'elle est en droit. Mais des petits cours, rien du tout, qui a ramené deux cours, elle a fait les recours, alors qu'elle avait le point dans ces cours-là. Mais elle était obligée de revenir à la deuxième session. Imaginez-vous, à la deuxième session, il fallait qu'elle puisse faire les recours. Alors, des histoires qui étaient vraiment visibles, et on ne sait pas, elle me présente les fiches, les quoi, tout ça. Il y a des fiches, il y a vraiment toute une bagatelle de choses qu'il faut acheter à l'université. Alors, nous nous demandons si réellement on forme maintenant le futur de ces pays, ou bien on est en train de former, je ne sais pas, des chaises de demain. Parce que si aujourd'hui on doit tolérer de telles choses, alors, on ne peut pas espérer quelque chose vraiment de consistant prochainement. Mais, c'est-à-dire, ces pays est voué à l'échec total. Si on doit vraiment continuer à supporter ça, nos pauvres populations, qu'est-ce que nous devons faire?
Merci.
Nous nous demandons.
Mais... Oui, merci Jean-Claude. Merci Jean-Claude, on a compris hein, votre préoccupation. Le professeur va réagir par rapport à ça. Parce que la grande question, vous dites que toutes les autorités sont au courant de cette pratique, mais qu'est-ce qui fait que cette pratique persiste toujours? En tout cas, merci hein, d'avoir appelé depuis Lubumbashi dans le Katanga. Ismaël Mopo, vous êtes également Lubumbashi dans le Katanga. Bonjour Ismaël.
Bonjour Marcel Gombokela, bonjour.
On vous écoute Ismaël.
Ma première préoccupation, de dire que le Viteux qui est un professeur, il est passé par un chemin, par un processus. C'est-à-dire, il était soit un assistant, soit un enseignant, soit un professeur, bien sûr, avant d'être une autorité académique. Il est passé par ce processus. Par exemple, quand on va un syllabus, lui-même a vendu aussi ce syllabus, c'est-à-dire, celui-là a déjà l'accès au cours, au monnayage. Qu'est-ce que je fais par exemple? Il a souligné par exemple l'irrégularité des étudiants. C'est ça ce qui les referont par exemple d'aller voir les professeurs. Et ont enseigné, ils ont toute cette connaissance. Mais pourquoi ne peuvent pas suivre aussi la liste de présence de chaque cours et de chaque professeur pour savoir comment on peut aboutir à ce genre de conditions? Tout ceci, comme l'État, parce qu'il a donné l'accès aux ventes de syllabus, que le même Lavalère de syllabus, et pourtant le professeur lui-même enseigne. Et quand on n'achète pas, il a fallu assez pour mettre aussi fin à cette stratégie, il a fallu aussi que toutes les autorités puissent aussi commencer à réunir le chef de promotion pour savoir combien et qui ont acheté les syllabus et qui n'ont pas acheté. Parce que ceux qui n'ont pas acheté les syllabus, c'est parce qu'ils manquent les moyens. C'est là qu'on pourrait aussi avoir des difficultés sur ces notes de cours. Et vous allez voir même à la fin de l'année, ce sont eux qui vont maintenant recourir. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas acheté les syllabus. Ils vont aussi chercher partout les moyens par lesquels ils peuvent donner soit cet argent pour réussir aussi au cours. Merci beaucoup.
Merci Ismaël. Vous êtes à Lubumbashi dans le Katanga. Benjamin Bizouri, vous êtes à Bukavu dans le Sud Kivu. Bonjour Benjamin.
Oui, bonjour à l'invité, bonjour à tous les autres.
On vous écoute, allez-y, quelle est votre question? Oui.
Oui, j'aimerais dire aussi, parce que le temps qu'on étudie, on nous avait dit que l'achat des syllabiques n'est pas obligatoire. Mais pour le moment, on vient de voir que l'achat des syllabiques, ça devient directement obligatoire. Et surtout, ceux qui sont victimes, ce sont les enfants des pauvres paysans du village qui sont venus ici en Suisse. Et là, quand on met une liste de présents, donc la liste des achats de destination, toi qui es un enfant, qui est un paysan, qui est venu de loin, et qui est seulement dans une liste, et vous n'avez pas cet argent là-bas pour payer directement. Il faut d'abord attendre que la monnaie arrive, d'abord tout ça, tout ça. Et vous trouvez que ce sont les enfants là des paysans, souvent qui sont victimes de cet aspect-là. J'aimerais dire concernant les syllabus, et encore les droits d'auteur. Vous trouvez que les droits d'auteur, ça devient un processus là, je ne sais pas comment le qualifier, parce que chaque fois où vous savez, le professeur demande un droit d'auteur, mais depuis que nous étudions, nous ne voyons jamais un professeur lui-même confier son syllabus. Vous allez voir qu'il a confié quelque part sur l'internet, sur autre, et directement il prend un syllabus, et directement il demande un droit d'auteur. Est-ce que les droits d'auteur, c'est une question que je voulais poser, est-ce que les droits d'auteur, on donne à celui qui a construit un syllabus, celui qui est l'inscription lui-même qui a construit et fait un syllabus, ou on donne à celui qui a fait les copies volées pour seulement assurer, donc prendre le syllabus. Et il y a d'autres assistants, surtout les chefs de travaux. Et vous voyez que là, quand les professeurs ont apporté à l'assistant que non, ce sont les élèves, c'est les étudiants faibles qui feront souvent les enseignants. Et nous avons étudié, on avait trouvé un professeur là, un assistant, un chef de travaux. Oui. Lui qui disait qu'il nous avait donné des examens de coaching. Il nous attendait souvent au banc des accusés. Quand vous avez répondu favorablement, lui dit que c'est ça, c'est le professeur lui-même qui connaît sa réponse. Et il vous envoie directement d'aller voir sa femme. Est-ce que ça, les autorités savaient tout ça, mais il n'y avait rien qui a été porté à sa charge. Est-ce que ça aussi, comment est-ce qu'on fait le calcul, parce que les autorités étaient
Voilà, merci. Merci Benjamin Bizouri. Il faudra qu'on donne du temps au professeur de répondre, mais avant de laisser le professeur répondre à ses préoccupations des auditeurs qui ont appelé, on va d'abord accorder la parole à Guy Bendelo qui nous appelle de Kikui dans les Bandundu. Guy Bendelo, bonjour.
Marcel Ngomombala, je vous dis bonjour. Je salue aussi M. Augustin Mwendambale qui est au plateau. Bonjour aussi à tous ceux qui sont présents.
Bonjour.
Voilà, accorder la parole. Ce sujet vraiment est très intéressant, mais c'est alors alarmant. Vous savez, j'ai bien suivi les professeurs sur toutes ces préoccupations et les explications qu'ils nous fournissent là, mais c'est vraiment impitoyable. Parce que ce que nous constatons dans les institutions et les universités, ce n'est pas ce que les professeurs sont en train de dire. Vous savez qu'il y a des professeurs qui sont eux-mêmes autorités académiques et la vente des syllabus chez eux font des mangeaisons, s'il vous plaît, parce que il peut faire même formalité de poser une interrogation, mais il sait bien qu'aura réussi à cette interrogation-là que celui qui a acheté un syllabus. Et d'ailleurs, il y a même des élèves qui n'ont pas besoin, accès ou possibilité d'acheter un syllabus, qui dit à son collègue, accorde-moi ton syllabus, je vais photocopier. Et si le professeur est au courant, il dit, avant d'accorder à ton collègue le syllabus pour aller photocopier, il faut qu'il donne le droit d'auteur. Alors, c'est pourquoi j'ai voulu poser la seule question à maître à M. Mounambale, est-ce que pense-t-il que vraiment cette situation pourra prendre fin? Pense-t-il que vraiment il y aura amélioration, il y aura vraiment sécession directe ou catégorique sur cette situation? C'était là ma seule question inquiétante d'ailleurs. Merci Marcel et bon suite des programmes sur les antennes de la radio Kati.
Merci Ogui Abendelo depuis qu'il quitte, là décidément. Les réactions ne font que continuer à nous parvenir, mais j'aimerais accorder tout de même la parole au professeur, parce que professeur, vous avez suivi, je crois que la préoccupation est la même pour tous les auditeurs qui sont passés sur cette antenne. Il faut absolument, excusez-moi, mettre fin à cette pratique. C'est ce qui me fait penser que les trois pôles de stratégie, vous avez cité en début de l'émission, font absolument à le mettre en application. Professeur, comment réussissez-vous à tous les auditeurs qui ont parlé là?
J'essaierai de répondre à Raymond tant selon l'ordre d'intervention. Oui. D'abord avec notre ami de Kikwit, qui dit comment mettre fin à cette situation.
Oui.
Moi, j'ai dit qu'il n'y a pas deux manières ou quatre manières de mettre fin à cette situation. Il faut tout simplement appliquer le règlement académique. D'ailleurs, je viens encore, je l'ai réitéré, je l'ai souligné au début de l'émission, l'autorité académique doit veiller à ce que les étudiants ne soient pas victimes des traitements anarchiques de la part des enseignants.
Mais je pense
que la meilleure façon de le faire, c'est d'appliquer le règlement. D'ailleurs, je vais vous démontrer. Si nous demandons la liste des présences, et moi personnellement, quand je demande, c'est parce que je me réfère à certaines dispositions du règlement, des règlements académiques, qui stipulent notamment quand un étudiant n'a pas totalisé le nombre d'heures des cours fixé dans les programmes, cet étudiant ne peut pas présenter les examens. Bon, quand moi je prélève la liste, c'est pour qu'à la fin je vérifie qui a été au cours, qui n'a pas été au cours. Mais je ne fais pas la sommation de ceux qui étaient au cours parce qu'il a acheté la syllabide, celui qui était au cours parce qu'il a acheté le syllabide, et celui qui n'a pas été au cours parce qu'il n'a pas acheté. Non. Loin de moi cette question-là. D'ailleurs, je vous ai dit, la meilleure façon de réglementer cette question, c'est de créer des maisons d'édition, et ça, c'est une invitation, une recommandation que je fais au ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, que les syllabus doivent être canalisés vers la maison d'édition des cours de l'université. Et cette maison doit être patronnée ou bien dirigée par un personnel nommé par les autorités académiques, et parmi ce personnel, un petit comité rédactionnel selon les matières.
Mais professeur, excusez-moi de vous interrompre, vous avez suivi, les auditeurs disent que, je ne sais plus si c'était encore le docteur qui nous appelait de Lubumbashi, qui a dit que l'autorité universitaire ne joue pas aussi ce rôle. Vous dites qu'il faut faire appliquer les règlements, mais l'autorité ne joue pas ce rôle de faire appliquer les règlements, bien au contraire.
C'est regrettable, il faut dénoncer ce genre d'autorité. C'est pas pour rien que l'Observatoire du Code éthique professionnel existe. Nous recevons le plainte de quiconque, de untel, qu'il soit femme ou homme, s'il y a des injustices, s'il y a la non-application de textes, vous pouvez vous plaindre, vous pouvez dénoncer cela auprès de l'Observatoire du Code d'éthique et professionnel. Si vous n'avez pas la possibilité de voir le ministre, et nous le ferons à votre place. Et si je vous donne le numéro de téléphone pour vous dire que nous sommes dans les concrétismes ici. On ne rêve pas, on n'idéalise pas ce qui se fait à l'OSEP. Quand il y a une plainte, nous saisissons l'autorité concernée. Si c'est au niveau de la justice, c'est le procureur général. Si c'est au niveau de l'administration, c'est l'autorité la mieux placée et qui peut intervenir pour mettre fin à cette situation. Et le numéro de téléphone, c'est 099-99. On peut dire autrement, 99,
oui.
4 fois, 22-0-36. 99-99-22-0-36.
Voilà, je répète rapidement le numéro de l'Observatoire du Code d'éthique professionnel pour des étudiants ou même du corps enseignant à l'université qui aimerait bien peut-être porter plainte par rapport à une situation. C'est les 099-99-22-0-36.
Et à ce sujet, j'ajouterai qui, disons, incriminer les autorités qui ne réagissaient pas, c'est parce que peut-être ils n'ont pas été mis au courant d'une situation anormale qui est survenue. Là, je ne peux pas condamner toutes les autorités.
Il faut apprendre à dénoncer. Il faut apprendre à
dénoncer. Je prendrai par exemple le cas de l'ISP Gombe, où je preste et je donne mes enseignements. Il n'y a pas 3 mois qu'on a révoqué un assistant. À 22h, il vient déposer une étudiante qui est censée rester au home, en retard d'ailleurs. Et puis avant de déposer l'étudiante, le professeur se permet de s'amouracher avec la fille dans le véhicule, au vu au su des vigiles, des gardes universitaires. Heureusement, les gardes universitaires ont été catégoriques. Ils ont dit, monsieur, ce comportement est anormal, doit être signalé à l'autorité. Et la garde universitaire a reçu même 10 000 francs congolais de la part de cet assistant. Ils ont pris note, ils ont pris l'argent, ils ont consigné pour le corrompre, ils ont consigné dans le registre des rapports, et le lendemain, ils ont présenté et le 10 000 francs, et les noms du professeur, et les noms de la fille. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le professeur a été révoqué de l'Institut supérieur pédagogique de la Gombe. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres.
Là dont vous êtes formant au niveau de sanctions, parce qu'on va revenir à vous, hein, parce que là, il y a plein de choses à dire par rapport à ces sujets. Le temps pour nous d'accorder la parole d'abord à deux auditeurs. Il y a Dieu Moulouma qui est en Bandaka dans la province de l'Équateur et Omar Kigalo qui est ici à Kinshasa. Dieu Moulouma, bonjour.
Bonjour, monsieur journaliste.
On vous écoute. Quelle est votre question?
Oui, merci pour la parole. Moi, je voulais dire ça. Un professeur qui ne donne pas cours bien, qui ne dispense bien son cours, alors au moment de l'examen, il vient, il complique encore les choses. Il demande aux étudiants ce qu'il n'avait pas donné comme cours. Alors, on sait bien que la réussite, c'est la première place pour les étudiants. Alors, comment voulez-vous que les étudiants ne puissent pas donner l'argent pour passer? Or, le professeur n'avait pas bien disposé son cours. Et au moment de l'examen, il complique encore les choses. Alors, les étudiants vont toujours donner de l'argent. Donc, ça sera vraiment impossible pour lutter contre cette histoire de monnayage de points. Moi, je pense ça.
Merci à Dieu Moulumba, depuis Mandaka, dans la province de l'Équateur. Omar Kigalo, vous êtes à Kinshasa. Bonjour Omar.
Bonjour Marcel Ngombombal. Bonjour à l'invité.
On vous écoute, Omar.
Bonjour.
Oui, merci beaucoup, Marcel. Je suis très écœuré. Je n'avais pas l'intention d'intervenir dans l'émission, mais puisqu'on parle des cas que nous avons vécu lorsque nous fûmes étudiants, il m'a paru important d'intervenir. Je vous parle d'un cas qui s'est passé quand j'étais étudiant. Il y a une amie qui travaille avec un professeur. Et chaque fois que le professeur remettait la farde, il mettait toujours des mots doux pour amouracher la fille. Et lorsque la fille a voulu refuser, le monsieur lui a dit « soit moi ». Soit des études. Et la fille a échoué. Moi-même qui vous parle, Marcel, j'étais en troisième graduat. Je suis allé voir ma feuille d'examen à la poubelle. Je suis allé interroger mon CP, il me dira, le prof avait une liste et avant de corriger, il vérifie la liste de ceux qui ont jeté les syllabus. C'est ça des camps que nous avons vécu et qui nous font très mal aujourd'hui. Et lorsque nous pensons à cela, nous regrettons beaucoup. Alors, qu'est-ce que moi je peux proposer, monsieur Marcel? Il faut qu'il y ait des solutions immédiates. On a vu le cas de l'opération Likofi. Aujourd'hui, on ne parle plus de Kuluna. Si maintenant, on peut se mettre à faire perdre à ces professeurs leur qualité de professeur, les arrêter, je pense que cela finirait. Alors, je pose ma première question, professeur. Est-ce que les commissions d'éthique existent toujours au sein de chaque faculté? L'année passée, j'ai appris qu'on avait instauré dans chaque faculté une commission d'éthique. Mais cette commission ne travaille pas. Nous avons des cas qu'on dépose, ils sont... imbibés par la solidarité professorale. Ils n'arrivent pas à dénoncer leurs collègues. Qu'est-ce qu'on peut faire? Deuxième question. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'alourdir les conditions pour devenir assistant, chef de travaux professeur? Parce que moi, je pense que le recrutement est complaisant. Il ne suffit pas de soutenir une thèse pour devenir docteur. À quoi faut-il voir la moralité de la personne? Gandhi disait, une intelligence sans sagesse est une folie. S'il y avait beaucoup de professeurs comme le professeur Augustin et comme le professeur Nyabiron, pour ne citer que cela, mais on serait dans un paradis. Si peu de thèse, lorsqu'on accorde le titre d'assistant, tenir compte de la moralité des gens, je crois qu'on éviterait cela. Parce que c'est aussi un problème d'éducation. Une personne bien éduquée comme le professeur Augustin ne commettrait pas de tels actes. Alors, il faut qu'on soit rigoureux lorsqu'on accorde une thèse. Il faut qu'on évite l'opportunisme, les systèmes, enfin d'abord. Il faut qu'on tienne seulement, je vous donne le cas des barreaux pour finir, pour devenir avocat. Il ne faut pas seulement réussir au test. Il y a une commission qui vient pour visiter où vous vivez, qu'est-ce que vous faites. Donc la moralité est aussi importante. Si on tient compte à cela, on éviterait des cas comme ça. Sinon, on crierait, il y aurait des lois, le même comportement continuerait, même les autorités elles-mêmes les pratiquent. Alors, où en irons-nous? La société est en train de se perdre.
Merci Omar Kigalo. Vous appelez de Kinshasa, on va rester à Kinshasa pour accueillir en tout cas le tout dernier auditeur, c'est Samuel. Samuel, bonjour.
Bonjour Marcel, bonjour au professeur, bonjour,
bonjour
à tout le monde.
Bonjour.
Allez-y Samuel, on vous écoute.
Oui, c'est Samuel Mekonji depuis la ville de Kinshasa. Maintenant, le sujet m'a intéressé un peu, tout petit peu, et maintenant je me suis rendu compte que concernant les problèmes de monnayage des points, moi, je n'ai pas seulement vu le système de monnayage que les étudiants cherchent les professeurs pour qu'ils les corrompent, pour qu'ils obtiennent un peu de points. Mais au moins, je suis rendu compte au problème, surtout des tribalismes au niveau de l'université. Si un professeur, il est de Bandundu, tous les étudiants de Bandundu, ils se sont d'office retrouvés. Maintenant, les étudiants de d'autres provinces, ils sont discriminés. Si le professeur est de Bakongo, et ainsi de suite. Et maintenant, est-ce que vous ne voyez pas qu'à partir de cet tribalisme-là, que d'autres étudiants font un effort pour qu'ils retrouvent un peu de poids auprès du professeur qui n'est pas de son tribut? Je vous remercie.
Merci Samuel. Vous appelez de Kinshasa. Professeur Augustin Mundambali, on revient à vous. Professeur, j'aimerais d'abord que vous répondiez aux questions directes d'Omar Kigalo, qui a parlé d'abord par rapport à la commission d'éthique aussi, au sein de chaque faculté. Il semblerait que c'est vraiment inefficace. Et puis si on peut alourdir les conditions pour devenir assistant. Et ensuite, parce que toutes les autres préoccupations, c'était de dénoncer les pratiques. Donc vous allez conclure pour dire qu'est-ce qu'il faut absolument faire pour mettre fin à cette pratique.
Je vais commencer par la nécessité de faire fonctionner les commissions d'éthique.
Oui.
Toute entreprise, toute organisation humaine doit avoir à son sein une cellule d'éthique qu'on appelle infrastructure d'éthique. Elle n'est pas confiée à n'importe qui.
Oui.
Elle est confiée par le représentant des personnels. Et ce représentant n'est pas nommé. Il est désigné par ses pairs suite à un certain nombre des qualités qu'il peut avoir, notamment l'intégrité, l'amour du travail bien fait, le patriotisme. Tous ces aspects entrent en ligne des comptes. Cette commission est indispensable. Nous l'appelons infrastructure d'éthique parce qu'elle oriente, elle joue le rôle de médiation entre les différentes composantes qui constituent l'organisation. Cette commission est indispensable et nous, quand nous avons commencé à vulgariser les codes de conduite de l'agent public de l'État, nous avons insisté qu'il y ait dans chaque structure de l'université qu'il y ait cette commission d'éthique qui doit fonctionner, faire rapport directement au ministre des tutelles et copie à l'Observatoire des codes d'éthique professionnelle. Sans cela, ça sera les vagabondages sexuels, ça sera le point sexuel transmissible, ça sera les endroits typo-typo dans les universitaires, où celui qui a de l'argent, c'est lui qui gagne. Alors, le problème de moralité reste intact. C'est lui qui est au centre d'ailleurs des commissions d'éthique.
Exactement.
Il faut renforcer les conditions avant d'engager les enseignants au niveau des instituts supérieurs universitaires. Et dans tout autre organe de l'État ou organisme de l'État. La moralité est indispensable. Pourquoi? Parce que je préfère avoir un ingénieur moyen, mais doté de certaines valeurs morales. Le respect du travail, le respect de la personne humaine, l'intégrité, les idées de bonne gouvernance, qui est d'avoir un savant qui, après seulement une petite opération, il est prêt à vendre la formule qui lui a permis de devenir savant. Non, moi, je crois qu'il est mieux avoir des têtes bien faites que des têtes pleines. C'est ça la notion de la moralité. Et la moralité ne doit pas être biaisé par les pourcentages. Même la distinction aujourd'hui, c'est monnaie, monsieur Marcel. Vous dites, pour entrer à l'université, il faut avoir au moins une distinction. au cours de deux cycles universitaires, soit des graduats, soit des licences. Mais nous avons remarqué aujourd'hui, on embauche n'importe qui, par recommandation. Quelqu'un qui n'a jamais terminé avec distinction, il est intégré dans les circuits, devient professeur. Celui-là ne sait pas à quel prix il est devenu pour avoir une distinction, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui a vraiment travaillé, qui a bossé. Et là, je m'insurge contre les gens qui pratiquent le tribalisme.
Oui.
Là, je rejoins la question, la préoccupation de Samuel, qui donne des points, les meilleures cotes aux gens de leur patelin, de leur région. C'est tuer l'enseignement. Vous imaginez, je donnerai seulement un seul exemple. Vous avez formé un ingénieur électronicien qui doit mettre au point une formule pour lancer en fusée. Alors, le fusée est porteur des têtes nucléaires. Voyons.
Oui.
Maintenant, le monsieur fait mal l'équation pour permettre au fusée de prendre la hauteur. Le fusée se retourne sur la planète Terre ou contre la planète Terre. Vous imaginez les dégâts qu'il y aura ?
La catastrophe.
La catastrophe. Et vous imaginez, c'est de la même manière quand nous formons des gens qui ne remplissent pas les conditions, qui nous les laissons passer, nous nous détruisons nous-mêmes. Nous sommes en train de tuer les progénitures futures parce que nous ne serons pas là pour donner cours à nos propres enfants. Ce sont eux qui doivent prendre la relève de nos propres enfants. Et qui est ces parents qui accepteraient qu'on apprenne des bêtises, des sottises à ces enfants pour qu'ils ne puissent pas briller, pour qu'ils ne puissent pas participer à l'édification de l'humanité.
Alors, professeur, il est bon pour nous de rappeler, hein, parce que là, oui. On est vraiment à la fin de cette tranche, il est bon pour nous de rappeler les numéros pour dire que la commission d'éthique existe vraiment et fait son travail, il faut apprendre à dénoncer. Donc, le numéro pour tous les étudiants, ou bien le corps enseignant, l'université, dans les instituts supérieurs, si vous voulez dénoncer certaines pratiques, n'hésitez pas, nous avons le professeur Augustin Mouinambali, qui est le directeur de l'Observatoire du Code d'éthique professionnelle, vient de passer un numéro d'appel. C'est les 099-99-22-036. Il faut d'abord commencer par dénoncer et puis le reste viendra.
La sanction viendra. Alors pour les problèmes de complications, les professeurs qui compliquent les questions, je vais vous dire une chose. Un professeur qui a fait le cursus normal, qui est passé dans les conditions tout à fait optimales, ne peut pas compliquer les questions. Si on pose une question, c'est toujours en tenant compte de la matière qu'on a donnée. La question ne doit pas sortir de ce cadre-là. Sauf pour compléter un peu avec la culture générale, on peut dire, mais vous savez quand même, le nom de tel président, c'est ainsi. Mais on ne peut pas sortir du cadre du cours, des cadres de matière qu'on a donné.
Merci Augustin Mouindambali. Nous rappelons que vous êtes directeur de l'Observatoire du Code éthique professionnel et vous étiez notre invité pour parler de comment lutter contre le monnayage des points à milieu universitaire. Merci beaucoup.
Merci Marcel.